franceinter.fr.
Votre invitée à présent, Léa Salamé, est une femme médecin qui revient de Guinée où elle était pour Médecins sans frontières.
Absolument. Bonjour Marie Jaspard. Vous venez donc de rentrer il y a un peu plus d'une semaine maintenant de la Guinée-Conakry où vous avez soigné pendant 4 semaines les malades d'Ebola dans le centre de Médecins sans frontières. On sait que la période d'incubation est de 21 jours. Vous êtes donc toujours dedans. Aujourd'hui, vous êtes sûre de ne pas être contaminée?
J'en suis pas sûre, mais en tout cas, je ne suis pas asymptomatique, donc pas contagieuse, si tant est que je sois contaminée éventuellement. Donc il n'y a aucun risque pour le studio.
Il n'y a aucun risque dans le studio ici, les gens qui vous entourent.
Pas de souci.
Ceci dit, vous avez eu quand je vous ai tendu la main pour vous dire bonjour, ça n'a pas été évident.
Non, parce que pendant les 4 semaines où on est en mission là-bas, on a le droit de toucher personne, à part quand on porte la combinaison. Et quand je dis personne, c'est personne, ni nos collègues expatriés, ni personne dans le centre de traitement, jamais. Du coup, les contacts maintenant, c'est un petit peu particulier pour l'instant.
Du coup, vous avez du mal aujourd'hui à Paris à serrer des mains.
Ouais, et le métro, c'est un challenge.
Pourquoi?
Parce qu'il y a du monde, c'est serré, on ne contrôle pas toutes les positions des autres personnes.
Et... Mais pourquoi vous avez peur de les toucher aujourd'hui dans le métro si vous dites que vous n'avez pas de symptômes?
Pardon, non, ce n'est pas pour peur de les contaminer, c'est un réflexe en fait qui m'a suivi là-bas, où on doit toucher personne pour ne pas se contaminer là-bas. Ici, c'est absolument pas la même chose, c'est juste quelque chose qui reste.
Combien de cas vous avez traité pendant 4 semaines?
Sur un mois, j'ai regardé un petit peu, on a fait 250 admissions, donc ça ne veut pas dire que tous sont des patients atteints par Ebola. Ça veut dire que certains patients ont été admis, suspects et libérés après sans être malades.
Comment est-ce qu'on travaille avec les malades d'Ebola? J'imagine que les conditions de précaution sont extrêmement contraignantes.
Oui, tout à fait. On doit porter dans la zone de haut risque, on doit porter la combinaison, la fameuse combinaison jaune qu'on voit partout. C'est assez contraignant et en même temps, c'est assez enrichissant parce que c'est le seul moment où on peut toucher les patients, avoir un contact physique ou émotionnel avec eux. Donc
vous ne pouvez pas les toucher si vous n'avez pas la combinaison de cosmonautes.
Absolument jamais. Mais la combinaison, mine de rien, permet de laisser passer quand même certains sentiments. Et les patients apprécient énormément qu'on rentre, qu'on les touche. Moi, je leur faisais des massages. On a dansé dans le CTE aussi à l'intérieur pour essayer de dynamiser un peu les choses, de motiver les gens. Ils rentrent là-dedans. Pour eux, c'est l'enfer. Il faut essayer d'humaniser un peu les choses, même si on a cette tenue qui s'appelle le PPE. Par le regard, on arrive à être... à aider les patients, à aider les enfants. On joue avec les enfants, on les prend dans les bras. Il y a quand même une relation qui se crée à l'intérieur. Et puis quand ils sortent de la guérie, c'est encore un autre événement.
Une satisfaction. Mmh. Vous dites qu'ils rentrent là-dedans, dans ces centres d'MSF, et c'est l'enfer. Mmh. Qu'est-ce que vous avez vu? Qu'est-ce que vous avez entendu? Quelles sont les scènes qui vous ont marqué?
Ce qui est délicat, c'est que dans la zone haut risque, tout le monde porte la combinaison. Donc les patients ne voient que défiler des espèces de bonhommes jaunes façon cosmonaute, qui leur posent des voies veineuses, qui les aident à s'habiller, à se laver, à manger, à boire. À l'intérieur de ce centre de traitement, donc de la zone haut risque, il n'y a aucune notion du temps. On essaye de mettre des radios, de mettre des journaux, de mettre des horloges pour qu'ils voient un petit peu où ils en sont. Mais malheureusement, les gens décrivent vraiment une situation où ils ne se rendent absolument pas compte de pendant combien de temps ils sont là-bas.
Ils sont couchés, ils parlent,
Ils sont couchés, mais le principal symptôme d'Ebola, c'est la fatigue extrême. Donc ils sont allongés au fond de leur lit et malheureusement ils ne peuvent pas se nourrir tout seuls. Donc c'est là aussi où on a besoin d'intervenir pour les aider à se nourrir, à boire et à survivre à ce moment-là.
L'ambiance dans l'équipe n'était pas pesante, dans l'équipe de MSF?
Non, l'ambiance était super. L'équipe guinéenne avec qui je travaillais, c'était vraiment des gens extraordinaires, motivés. C'est eux les héros, hein, c'est clairement pas nous. C'est eux qui travaillent depuis 7 mois là-bas, qui ont vu leurs collègues rentrer, leurs collègues sortir, parfois morts, parfois vivants. Donc, qui ne peuvent pas rentrer chez eux parce que leur famille les stigmatise parce qu'ils travaillent là-dedans. Non, c'est vraiment une dynamique, une force que les gens ont là-bas qui est extraordinaire.
Aujourd'hui, vous rentrez en France et il y a ce sondage. Un Français sur trois redoute d'être contaminé par le virus Ebola. Vous dites quoi? On est dans la psychose là? On est dans la peur irrationnelle?
Ah oui, on est complètement dans la peur, enfin à mon sens en tout cas irrationnelle, parce que c'est pas un virus qui saute, c'est pas un virus qui vole, c'est pas un virus qui traverse la peau. Il faut un contact très rapproché avec un patient Ebola pour pouvoir s'infecter. En Afrique, c'est les gardes malades qui s'infectent, donc les gens qui s'occupent vraiment des gens malades, et les gens qui font des funérailles, qui organisent des funérailles ou qui touchent des morts. Donc c'est clairement pas dans le métro ou dans la rue qu'on va avoir Ebola qui va nous sauter dessus.
Le gouvernement annonce une opération, un exercice en grandeur nature dans les SAMU et dans les services d'urgence. C'est nécessaire de faire ça ou c'est de la communication?
Non, je pense que c'est important que les gens soient préparés sans qu'on tombe dans la psychose ou des choses comme ça. Je pense que les services d'urgence doivent savoir quoi faire si un patient Ebola arrive et surtout doivent savoir ne pas paniquer. Parce que finalement, si on est à 1 mètre ou 1 mètre 50 d'une personne Ebola, on risque pas d'attraper Ebola. Donc je pense qu'il faut juste mettre une distance entre les patients et les soignants. C'est bien de faire un exercice, il ne faut pas que ça mène à la psychose.
Ebola existe depuis 40 ans. et tout le monde l'a un peu oublié, l'OMS, les laboratoires pharmaceutiques. C'est pas ça le grand scandale, c'est qu'il n'y a jamais eu vraiment d'argent mis pour soigner, pour trouver un vaccin pour Ebola.
Si, on le paye tous aujourd'hui. Il y a plus de 4500 morts et encore le chiffre est certainement sous-estimé. C'est évident qu'il aurait fallu y penser avant. C'était une épidémie qui touchait des villages, en général au Congo ou en Afrique centrale. Ça n'avait pas beaucoup d'impact sur nos sociétés, donc je pense que ça intéressait moins les gens. C'est le cas pour beaucoup de maladies qui sévissent en Afrique. Et malheureusement, on se réveille maintenant parce qu'il y a des risques que ça touche nos continents. C'est extrêmement dur quand on est sur le terrain de se dire qu'on a attendu si longtemps, mais même l'épidémie a commencé depuis 7 mois. Bon, ça n'a pas encore beaucoup avancé. Oui, c'est évidemment un problème. Après, les traitements spécifiques ne sont pas utilisés en Afrique. Pour l'instant, c'est vraiment des traitements réservés à l'Occident,
ce qui est riche, aussi un autre problème. Merci Marie Jaspard, vous allez retourner en Afrique ?
J'espère.
Merci. Belle journée.